RTS.
Ça vous arrive, vous, de vous demander si la science et les scientifiques sont vraiment sérieux? Parce qu'au fond, on ne comprend pas toujours ce que les scientifiques font. Et si ça se trouve, ils font des trucs improbables qui ne servent à rien, ou des trucs carrément absurdes. Ça peut être rigolo, la science?
À mon avis, c'est pas possible. La science est quand même quelque chose d'assez austère. Et c'est peut-être justement des gens tout à fait austères qui se sont accordés de temps en temps une petite récréation en faisant un petit pas de côté.
On va voir ça. Microsciences, un podcast de la RTS. Bienvenue dans Microsciences, un épisode dans lequel on va s'intéresser aux petites récréations des scientifiques, à des découvertes parfois comiques, à des travers parfois tragiques, et on le verra plus tard, à des spaghettis qui se cassent. Notre interlocutrice du jour, la très sérieuse Madeleine Vessier. Elle est physicienne et spécialiste
de la matière molle. J'ai introduit le mot. Peut-être pas le concept, mais je l'ai. Et j'ai eu l'honneur d'être une très proche collaboratrice de Pierre-Gilles de Gennes, prix Nobel en 91.
Si, la matière molle, ça existe.
Vous voyez, il y a la physique des solides qu'on connaît bien avec les matériaux, les semi-conducteurs, les magnétiques, les cristaux, et puis les liquides qu'on voit couler. Et au milieu, il y a des systèmes comme les polymères, les cristaux liquides, les pâtes, les colles, les glues, des choses qui ne coulent pas aussi facilement que les liquides et qui n'ont quand même pas la structure du solide. Et ces états intermédiaires ont commencé à être travaillés justement à partir des connaissances qu'on avait dans la physique du solide d'une part et dans les liquides d'autre part.
Ça, c'était un petit pas de côté. C'est drôle a priori, la matière molle, mais c'est très utile, les cristaux liquides. Avec Alexandra Crowe, Madeleine Vessier est co-autrice du livre « Le best-of des découvertes scientifiques les plus loufoques ». Elle s'intéresse au pas de côté, aux recherches surréalistes, improbables. Par exemple, au travail de scientifiques qui pensaient que les extraterrestres enlevaient des humains.
C'était dans les années 60 et à ce moment-là, on voyait un peu partout, aux États-Unis, mais aussi dans à peu près tous les pays du monde, il y avait des témoignages de gens qui avaient vu se poser devant eux sur les autoroutes des soucoupes volantes. De cette soucoupe volante étaient descendus des personnages. Enfin, il y avait 50% des habitants des États-Unis et 30% des Français qui croyaient vraiment qu'il y avait une civilisation d'ailleurs qui nous envoyait des délégués. Et parmi ces gens très très sérieux, il y a deux professeurs d'université, dont l'un un professeur de médecine, de psychiatrie à Harvard, qui est quand même un des plus hauts lieux de la connaissance, qui se sont penchés, qui ont écouté des gens, des enlevés, qu'ils ont interviewés, et qui ont conclu que c'était absolument véridique, et qui ont écrit des articles et des livres sur leur rencontre avec ces extraterrestres. Alors, ils les décrivaient tous un peu de la même façon, des petits gris. Ils étaient gris avec une très grosse tête.
Waouh ! Tous ces gens qui ont vu des extraterrestres, tout gris avec une très grosse tête ! Et évidemment, aucun témoignage récolté par ces deux chercheurs n'avait été influencé par ce que les témoins lisaient dans la presse ou voyaient dans les bandes dessinées. Donc facile, la conclusion est simple, les extraterrestres existent. Et les deux professeurs sont contents.
Et leur seule différence, c'est que l'un pensait qu'ils avaient des intentions mauvaises, qu'ils venaient peupler la Terre, mais pour maintenir l'humanité en esclavage, en faire des citoyens de seconde zone. Et l'autre pensait au contraire que c'était des êtres bienveillants qui voulaient nous arracher à notre misérable condition et nous amener à un état de plus grand développement.
Ah bah alors ça, c'est dommage. Deux chercheurs arrivent à la conclusion que les extraterrestres existent, mais n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'intention des extraterrestres. Les débats des experts n'ont pas fini de nous surprendre. Mais après tout, qu'est-ce qui nous prouve que les extraterrestres n'existent pas?
Parce que personne de sérieux n'a jamais pu rencontrer un extraterrestre, parce que on sait très bien que tout ce qui nous environne comme monde, on l'a exploré, n'est pas habité, et qu'il faudrait des milliers d'années pour venir de quelque chose comme une exoplanète habitable plus ou moins similaire à la Terre, c'est tout simplement pas possible.
Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes frappadingues chez les scientifiques ?
Je dirais non. Tous les gens que je connais, j'en ai connu beaucoup dans ma vie, sont des gens plutôt équilibrés. Ce ne sont pas des savants fous, ce ne sont même pas des professeurs tournesol. Ce sont des gens, j'ose dire, comme vous et moi, qui ne sont pas dénués d'humour, qui ont en général une intelligence raisonnable, même c'est des gens intelligents, des gens qui sont tout à fait adaptés à la vie. Nous avons rencontré quelques cas d'aberration, de gens aberrants, je pense, qui étaient des scientifiques sérieux, et qui sont partis dans un délire, mais je pense que c'est réellement exceptionnel.
Ah, c'est rassurant. Ces exceptions qui sont persuadées que les petits bonshommes gris sont parmi nous, ce sont John Mack, psychiatre de la Harvard Medical School, et David Jacob, historien de l'université Temple. À l'heure actuelle, les deux scientifiques ne se sont pas dédiés. John Mack est décédé en 2004. 10 ans auparavant, Harvard estime que John Mack n'a enfreint aucune règle éthique dans ses travaux et réaffirme la liberté académique du professeur. Quant à David Jacobs, il reste convaincu et publie encore parfois des ouvrages sur les intentions des extraterrestres. Leurs travaux ont été récompensés en 1993 par un IG Nobel, un prix qui récompense des recherches qui font rire dans un premier temps et réfléchir ensuite. Il s'agit de travaux complètement absurdes ou des recherches sérieuses et insolites.
Et c'est une invention justement de quelqu'un qui avait une culture scientifique de base, Mark Abrams, un Américain, qui était un bon mathématicien impliqué, mais qui avait aussi une âme, disons, d'histrion ou de performeur. Et il avait eu cette idée assez exceptionnel ou extraordinaire, d'essayer de donner une vitrine à la recherche et aux découvertes en leur donnant un caractère plaisant et même franchement hilarant. Et donc, il décerne une fois par an 10 prix qu'il appelle des Ig Nobel, c'est-à-dire des ignobles, si on veut dire, et qui sont aussi des prix, des découvertes plus amusantes qu'autre chose.
Bon. J'imagine que ça doit arriver à tous les scientifiques de s'engager dans des chemins de traverse. Mais parfois, certains s'obstinent dans une voie. Une voie qui peut nous faire sérieusement douter. En 1998, un médecin nommé Deepak Chopra reçoit justement un Ig Nobel.
C'est le seul dont je soupçonnerais que c'est un vrai féministe. Ou un profiteur, ou il venait des Indes, il avait une formation scientifique, il était médecin, il a professé comme médecin très sérieux. Et son idée, son filon, c'était d'être revenu sur une médecine traditionnelle indienne et sur la philosophie née des récits védiques qui remontent à des millénaires et créer ainsi une médecine où le corps n'est pas dissocié de l'esprit, ce qui est une vieille vision d'humanité, bien entendu. Alors là, il était très content parce qu'il voyait ça relayé par la mécanique quantique. Corps et esprit ne font qu'un, comme onde et particules ne font qu'un dans la mécanique quantique, mais c'est évidemment, ça n'a rien à voir, si j'ose dire. N'empêche qu'il a eu un succès inouï aux États-Unis, il s'est débrouillé pour être introduit auprès de personnages importants, notamment à la télévision, chez la grande Oprah Winfrey, il paraissait dans son émission, et il ouvrait des écoles et des instituts où on en enseignait cette nouvelle médecine, qui est une médecine de méditation transcendantale, où on guérit à peu près tout en rentrant soi-même, en retrouvant l'équilibre initial, etc., etc. Mais il a toujours dit qu'il n'empêchait pas de prolonger en même temps les traitements classiques. Lui, je crois vraiment qu'il n'y croyait pas une seule minute.
Oui, mais bon, l'explication de la mécanique quantique... La mécanique quantique. De toute façon, personne ne comprend rien à la quantique, sauf les experts.
Ah non, la théorie quantique tient parfaitement la route quand elle est appliquée dans son domaine, c'est-à-dire dans le domaine de la physique et par extrapolation à la chimie. Oui, et un exemple, le dernier prix Nobel, Alain Aspect, a brillamment éclairé, encore une fois, la validité par le phénomène d'intrication, sur lequel il serait un peu long de revenir, mais la validité de tout ce qui a été développé depuis le début du XXe siècle. Donc la mécanique quantique, Elle n'est peut-être pas compréhensible dans les termes habituels, mais un physicien se dit, bon, mais ça donne des équations qui sont vérifiées par l'expérience, qui me permettent de faire des prédictions qui sont elles-mêmes vérifiées par l'expérience. Donc, il y a tous les ingrédients d'une théorie physique corroborée et valable. Et nous en vivons tous avec les transistors, les systèmes magnétiques. Tout cela, c'est à base de mécanique quantique. Donc, elle est absolument vérifiée pour le moment, parce que un physicien se fie à une théorie jusqu'au moment où une expérience lui montre non pas qu'elle est fausse, mais qu'elle a ses limites d'application.
La perception quantique de Deepak Chopra du corps humain est peut-être hasardeuse, mais le lien entre le corps et l'esprit, il est de plus en plus exploré.
Loin de moi l'idée de nier le fait qu'il y a une interaction entre le corps et l'esprit. Enfin, ça se voit dans d'autres idées Nobel par la suite, dans les expériences de Marina De Tomaso, qui montrent que la douleur peut être atténuée par la vision d'un beau tableau, ce qui prouve une connexion entre quelque chose de très physiologique comme la douleur et quelque chose de beaucoup plus psychique comme la vision d'un beau tableau. Mais ce sont des phénomènes de corrélation entre le corps et l'esprit qui sont encore très difficiles à analyser, qui existent indéniablement, mais qui ne doivent pas être charlatanisés, si j'ose dire.
Alors peut-être que des charlatans, il y en a, aussi en science. Mais certains se trompent parfois de bonne foi. Et ça doit quand même être douloureux, en tant que chercheur, en tant que chercheuse, de s'engager dans une fausse piste.
Oui, effectivement, Jacques Benvenitz, c'est une histoire complexe, curieuse, puisqu'il s'agit d'un scientifique de très grande qualité, qui était médecin, qui était chercheur, qui dirigeait une équipe de recherche dans un organisme français, l'INSERM, qui est ultra officiel et reconnu. Donc, il avait un long passé déjà de chercheur reconnu, et il avait accueilli un jeune médecin qui faisait une thèse de médecine et qui avait travaillé sur des remèdes homéopathiques. Et Benvenitz, qui était un scientifique pur et dur, s'est convaincu qu'il y avait une base scientifique objective au traitement par l'homéopathie. Et il a lui-même fait ce qu'il pensait des expériences, tout à fait reproductibles, disait-il. Vous savez, le principe de l'homéopathie, c'est de diluer à l'infini un produit et de penser que cette solution extrêmement diluée pourra avoir des effets physiologiques et de guérison.
Ça me rappelle un truc, ça. C'est pas l'homéopathie et son lien avec la mémoire de l'eau ?
Évidemment que l'homéopathie agit sur l'homme par l'effet placebo qui est bien connu, par ce couplage entre esprit et corps. Mais en physico-chimie, si vous prenez de l'eau dans laquelle il n'y a plus aucune molécule, eh bien, elle ne fait aucun effet chimique, voilà. La physico-chimie classique dit que c'est impossible. S'il y a une seule molécule dans une piscine, boire de l'eau de cette piscine ne peut vous faire aucun effet. Et pourtant, ce scientifique, ce médecin qui était Benvenitz, y a cru et s'est battu corps et âme. Et il, à un moment donné, il était tellement persuadé lui-même de sa science qu'il avait réussi à persuader l'éditeur de la revue qui est probablement la plus prestigieuse Nature, une revue britannique extrêmement célèbre. Il avait réussi à persuader le rédacteur en chef de passer un de ses articles. Ce qui a fait un énorme scandale tout de même dans la communauté parce que personne n'y croyait et aucun laboratoire, indépendamment de Benvenitz lui-même, n'arrivait à reproduire des expériences fiables, répétitives, objectives.
Bon, bah c'est pas très grave. Un scientifique qui publie, c'est un scientifique qui se confronte au regard de la communauté scientifique. Quel est le problème de publier dans une grande revue ? Ça m'échappe.
Il y avait eu des études préalables ou parallèles, indépendamment de Benvenitz, qui avait été faite en France par un organisme officiel, dans des laboratoires et des hôpitaux, qui avaient, après une étude systématique, établi qu'il n'y avait aucun effet bénéfique pour des patients avec un traitement autre que placebo. Mais encore une fois, placebo, ce n'est pas de la physico-chimie. On ne peut pas voir un résultat d'interaction moléculaire. On peut juste dire qu'il se passe quelque chose dans la tête. Ça, c'est autre chose. C'est plus complexe. Aucun résultat de Benvenitz n'a pu être reproduit dans un laboratoire indépendant. Ça, il faut l'affirmer aussi.
Mais lui, il croyait sincèrement, dur comme fer.
Ah oui, je crois qu'il est mort dans le désespoir de ne pas être reconnu. Et je n'ai entendu personne autour de moi qui ne croit pas à la sincérité de Benveniste. C'est un cas aberrant, effectivement, parce que c'était l'homme le plus raisonnable du monde avant. Mais vous savez, l'esprit humain, il peut s'engager dans des voies bizarres.
Des voies bizarres ? Les scientifiques en prennent parfois.
C'est le plus charmant de tous les exemples. C'est un jeune chercheur russe à l'époque soviétique qui était en post-doc aux Pays-Bas, à Nîmes. À Nîmes, il se trouve que l'institut où il était en post-doc disposait d'un aimant extrêmement puissant. Un aimant 500 000 fois plus puissant que le champ magnétique terrestre. C'est quelque chose qui existe que dans quelques laboratoires hautement spécialisés. Ce qu'il y a, c'est que le vendredi, il se laissait aller à des petites rêveries en se disant qu'il pouvait faire ce qu'il appelait des manips du vendredi soir. C'est la semaine est finie, on peut abandonner le dur labeur et rêver un peu. Il a eu l'idée, mais complètement farfelue, il ne sait pas trop d'où elle lui est venue, de jeter quelques gouttes d'eau dans son aimant, dans le trou central de l'électro-aimant. Et à sa grande stupéfaction, il s'aperçut que ces petites gouttes d'eau lévitaient. Elles restaient en suspension au lieu de tomber vers le fond. Il a appelé l'attention de ses collègues. Ils sont mis à jeter des tas de choses là-dedans, des fleurs, des petites boules de plastique. Et même, c'était le comble de la joie, une petite grenouille d'un centimètre d'envergure, vivante. Vous pouvez voir ça sur YouTube. Elle est devenue très célèbre, cette petite grenouille. Et c'était la petite grenouille de Ghem.
Une grenouille en lévitation. Mais elle a fait quoi ? De la méditation à outrance chez Chopra?
Je ne sais pas, parce que Ghem, qui justement n'est pas un bévénite ni un farfelu, a réfléchi quelques minutes et a tout de suite trouvé que la physique qu'il connaissait bien, la physique magnétique du magnétisme, une grenouille n'est pas naturellement magnétique, comme à peu près tout autour de vous, sauf le fer et ses dérivés. Mais quand on la plonge dans un champ magnétique, elle acquiert une petite aimantation induite par le champ magnétique. C'est très faible comme effet, très très faible. Mais quand on est dans un aimant aussi fort que celui dont on disposait, cet effet commence à devenir significatif. La grenouille se transforme en un micro-aimant et cette aimantation la repousse en dehors du champ et l'empêche de subir la gravité et de tomber par terre. Donc, dès que Ghem a réfléchi, il a compris quelle était l'essence du phénomène, et ils l'ont mis en équation avec un de ses collègues, et ça a donné lieu à une publication extrêmement sérieuse.
Et la grenouille ?
Elle est devenue tellement célèbre que quand Ghem, qui avait reçu l'IG Nobel pour sa petite grenouille, a eu un vrai prix Nobel quelques années plus tard pour une invention formidable qui s'appelle le graphène, partout où il allait faire des conférences sur son vrai prix Nobel, les gens lui disaient « Non, 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 parlez-nous de la grenouille, parlez-nous de la grenouille. »
N'empêche que c'est pas la grenouille qui a eu le prix Nobel.
Tout le monde dit qu'elle a eu de nombreux enfants, mais personne n'a vérifié.
La grenouille va bien, les scientifiques vont bien, et c'est donc le moment, attention, âme sensible italienne, de casser des spaghettis. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand on essaye de casser un spaghetti en deux, eh ben, ça marche jamais. Les spaghettis se cassent toujours
en plus de deux morceaux, en général trois. Odoline Kirsch, c'est deux jeunes chercheurs qui étaient des spécialistes de la mécanique du solide, c'est-à-dire comment se déforment les systèmes, les poutres, les coques, quand on exerce des pressions ou des tensions sur eux. C'est une physique très sérieuse, très lourde au point de vue mathématique, mais qui est très importante, évidemment. Vous voyez, les ponts, les bâtiments, enfin, c'est à la base de toutes les structures solides, de tout ce que l'homme construit, disons. Ça touche la physique appliquée et l'ingénierie, bien entendu. Mais eux, c'était des théoriciens, s'il en faut, bien sûr. Et cette histoire des spaghettis, elle avait déjà tracassé deux prix Nobel, tout de même. Feynman, qui est un très grand nom, quelqu'un de très imaginatif, et de Gène, auquel nous nous référons déjà avec... Lui était spécialiste de matière molle, donc le spaghetti, on pouvait dire que si on le cuit, ça fait de la matière molle. Mais enfin, il a essayé de les casser, il n'a pas trouvé d'interprétation. Donc, c'est de la physique tout à fait classique, mais il fallait encore en avoir l'idée. Ils l'ont mis en équation, ils l'ont démontré, et ils ont vérifié leurs expériences, qui sont d'une simplicité biblique. Cassons des spaghettis.
Oui ! J'essaye.
Évidemment, il s'agit de spaghetti sec.
Oui, ça, je l'avais compris. Allez, je prends le paquet.
Ma che fai?
Spaghetti grossi.
Metti, ma no, non si fa.
Ben, si.
No, no, no.
Attention. Ah ouais. Attends, ils sont partis dans tous les sens. Ils sont partis dans tous les sens. Il y a un morceau là, un autre là, et le troisième sous la table, je crois. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 morceaux. Attends, je recommence. 3 morceaux. 3 morceaux. On mangera des vermicelles ce soir. 3 morceaux. Mais pourquoi ça se casse en 3 morceaux ? Parce que quand je casse un crayon, il se casse en 2 morceaux. Pourquoi le spaghetti se casse en 3 morceaux ?
Nos deux jeunes physiciens, théoriciens, ont une idée, finalement, qui est une idée de physique normale, mais qui est assez subtile, à savoir que quand on brise, il y a une première cassure, mais que cette cassure induit une onde de déformation qui va se réfléchir sur l'obstacle qui a, par exemple, le doigt qui tient le spaghetti, revient sur elle-même, interfère avec l'onde d'aller et peut donner des ventres de déformation, c'est-à-dire des gros maximums, et le spaghetti se rebrise à cet endroit-là.
Eh ben oui, un spaghetti qu'on casse ne se casse jamais en deux, mais toujours minimum en 3 morceaux. La faute aux ondes qui se propagent dans le spaghetti sec. Ah, celui-là, il s'est cassé en 2 morceaux. C'est le spaghetti qui confirme l'exception de la règle du spaghetti. Et ça peut servir à quoi ? À part à torturer mon beau-frère italien de casser des spaghettis ?
Ça pourrait s'appliquer à des prothèses, à des poutres, des fibres, mais c'est plutôt une application de cette grosse mécanique du solide appliquée à un petit cas très particulier.
Que ce soit des spaghettis, des grenouilles, des expériences ratées ou grandiosement réussies, elles nous en apprennent toutes sur la façon dont la science fonctionne. Et peut-être aussi sur les questions auxquelles elle peut répondre. Ou pas.
Pourquoi je n'ai que 2 bras ? Que se passe-t-il quand je dors ? Le zèbre, est-il blond avec des rayures noires ? Ou noir avec des rayures blanches ? Les virus sont-ils utiles ? Dois-je me remettre au sport ? Qui m'enverra la prochaine question de microscience ?
Et si vous, vous avez des questions ? Envoyez-les-nous à microscience@rts.ch, microscience en un seul mot et au pluriel. Si cet épisode et ses 36 compagnons vous plaisent, abonnez-vous sur Play RTS, Apple Podcast ou Spotify. Moi, c'est Uma Camis, journaliste scientifique qui dévore la science loufoque comme des petits chocolats. Et à mes côtés, ça ne s'invente pas, il est solide, il est coproducteur et il s'appelle Grégoire Moll. Et il y a aussi Jérôme Nussbaum, preneur de son de spaghettis maltraités, réalisateur, habilleur musical, sans qui, dans ce studio, personne n'eût ce baume au cœur. Je ne sais pas vous, mais je me suis quand même demandé si Madeleine Vessier avait une fois ou l'autre tenter de jeter une grenouille ou un spaghetti dans de la matière molle.
Oh, mais non, ça aurait été très... Oh, non. Moi, je suis quelqu'un de très sérieux. Je me suis beaucoup amusé à voir la fantaisie des autres, mais j'étais plutôt quelqu'un de... J'ai besoin de l'inventivité drôle des autres, mais moi-même, je ne peux que les analyser et les regarder et m'en réjouir.